C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France, avec la psychiatre Marion Leboyer, lauréate 2021 du Grand Prix de l'INSERM. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, au téléphone sonne, comment raconter des histoires aux enfants? Nous serons notamment avec Laure Grand Besançon, dont le podcast Les Odyssées cartonne sur le site de France Inter. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Le standard est déjà ouvert, il attend vos appels. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. La progression de l'épidémie de coronavirus sans limite au Royaume-Uni. Boris Johnson parle d'un raz-de-marée des contaminations. 93 000 nouveaux cas en 24 heures en France. Un conseil de défense sanitaire se tient en ce moment à l'Élysée. La gauche avec une nouvelle candidature possible. Christiane Taubira envisage d'être candidate à la présidentielle. L'écologiste Yannick Jadot refuse de se ranger derrière l'ancienne garde des Sceaux. Plus d'un million de voyageurs attendus dans les gares pour ce premier week-end des vacances de Noël. Nous serons dans un instant gare de Lyon. Dans ce journal également, la visite de Marine Le Pen à Mayotte. Paris demande à la Commission européenne d'engager un contentieux contre le Royaume-Uni concernant les licences de pêche post-Brexit et le choix culturel pour ce début de vacances avec une nouvelle version de La Flûte Enchantée présentée à Toulouse.
France Inter.
On va donc d'abord prendre la direction de la gare de Lyon à Paris pour les premiers départs en vacances de Noël et des fêtes de fin d'année. Plus d'un million de voyageurs sont attendus dans les gares et 2000 trains vont circuler. Le préavis de grève à la SNCF a été levé. Le trafic sera donc pratiquement normal ce week-end. En direct de la gare de Lyon, on retrouve Faustine Calmel. Bonsoir Faustine.
Bonsoir.
Et donc ce soir, plus de craintes que de retard pour les voyageurs.
Oui, beaucoup de voyageurs. On voit défiler les valises à roulettes, les sacs à dos, avec parfois les skis, les casques accrochés dessus, et puis les enfants un peu partout qu'on essaie de canaliser. Mais malgré effectivement ce stress du départ et après les menaces de grève, la montée dans les trains est globalement fluide. Roxane, qui s'est décidée en dernière minute, s'apprête à grimper dans sa rame direction Marseille.
On a pris nos billets hier seulement, dans le doute. On avait organisé la voiture pour partir samedi matin et on a eu une bonne surprise en fin de journée. On a réussi à avoir des places pour le train de 17h. On était sur 10 heures de voiture et là, ça repart en 3 heures de train. Donc bon, on est soulagés.
Beaucoup de voyageurs, valises à roulettes, donc un voyage en train. Paul n'avait pas vraiment le choix. De toute façon, pour Noël, il entame ce soir un long périple avec 3 valises et 2 enfants.
Nous allons à Perpignan, passer quelques jours. Nous retournons en Normandie ensuite. Donc on fait le tour de la France. Quand on a des belles familles et des familles aux quatre coins de la France, on prend le train.
Et puis les rails, ça permet aussi pour sa femme, Adrienne, d'enfin se reposer.
Moi, j'étais morte. Donc vraiment, je suis exactement représentative des Français.
Une fatigue unanimement partagée que Pierre et ses amis vont soigner en partant quelques jours à la montagne.
Ça va être ski, foie gras, raclette, bouteille de vin, sport et santé finalement quoi.
Un très gros programme déjà un peu entamé pour Pierre qui, bière à la main, monte enfin dans son train direction Grenoble.
Reportage Gare de Lyon de Faustine Calmel avec Geoffrey Marianne. Merci à vous deux.
L'information politique de la journée à gauche, Frédéric.
Oui, avec un message qui n'apporte peut-être pas toute la clarté dans le débat actuel sur l'Union. À gauche, Christiane Taubira envisage d'être candidate à la présidentielle, l'ancienne présidentielle, oui, l'ancienne garde des Sceaux, qui entretenait le flou depuis plusieurs semaines, donne également rendez-vous à la mi-janvier dans un message à la mi-journée sur Facebook.
Ce qui compte, c'est la fragilité du quotidien pour des millions d'entre vous. Les incertitudes de l'avenir, les fragmentations qui sont à l'œuvre dans la société française, les défaillances de la communauté internationale devant tant de dérèglements du monde. Ce qui compte aussi, c'est notre capacité à renforcer la cohésion sociale partout. Ce sont les garanties que nous vous devons pour votre pouvoir de vivre. Il s'agit de vous représenter, parce que l'essentiel, c'est quand même le sens de qui nous sommes. C'est la volonté d'empoigner nos vies et d'ouvrir un chemin commun. C'est la joie qui résultera d'agir sur notre présent et d'inventer l'avenir. C'est la lumière que nos combats et nos succès allumeront dans les yeux de nos enfants.
Et Christiane Taubira annonce sur Twitter ce soir qu'elle sera demain matin à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dans cette ville parmi les plus jeunes de France, parce que, dit-elle, c'est d'abord pour la jeunesse que la gauche doit gagner en 2022. Alors, réaction chez les écologistes avec deux lignes bien différentes. Sandrine Rousseau applaudit la démarche de Christiane Taubira qui pousse à l'union de la gauche. Je suis d'accord avec elle, explique la présidente du conseil politique du candidat Jadot. De son côté, Yannick Jadot, le candidat écologiste, a clairement affiché son refus de se ranger derrière l'ancienne garde des Sceaux ou de participer à une nouvelle primaire d'union de la gauche. Son initiative, explique Yannick Jadot, n'est pas totalement à la hauteur des difficultés que notre pays rencontre.
Christiane Taubira envisage d'être candidate à l'élection présidentielle après 5 années de retraite politique. Par une vidéo de 3 minutes, elle donne rendez-vous dans 1 mois. Écoutez, Christiane Taubira est incontestablement une femme remarquable. Mais là, on est à 4 mois de l'élection présidentielle. Elle défend quoi, Christiane Taubira? Moi, je sais les valeurs qui l'habitent. Mais franchement, à 4 mois d'une élection présidentielle, je poste une vidéo de 3 minutes et je reviens dans 1 mois. C'est pas totalement à la hauteur des difficultés que rencontre notre pays.
Yannick Jadot avec Wendy Bouchard de France Bleu pour la France Insoumise. Le député Éric Coquerel parle d'une intervention pas sérieuse. Il faut arrêter, dit-il. On n'est pas dans une cour de récréation. Anne Hidalgo, la candidate socialiste, a également rapidement réagi et propose à tous les candidats de la gauche l'organisation d'un débat télévisé.
Pendant ce temps, Marine Le Pen est en campagne à Mayotte, dans l'océan Indien.
La candidate du Rassemblement National a réagi également à l'annonce de Christiane Taubira, fustigeant une gauche en perdition et incapable, selon elle, de se mettre autour d'une candidature unique. Et à Mayotte, après la visite d'un commissariat à Mamoudzou, Marine Le Pen a dévoilé son slogan de campagne « Une femme d'État ». Pour la France, et lors de cette visite à Mayotte, Marine Le Pen a rencontré plusieurs élèves du lycée Kahani dans l'ouest de Mayotte. Et les lycéennes ont demandé à la candidate du Rassemblement National des solutions pour ne plus vivre, disent-elles, dans la peur. Un lycée qu'elles ont surnommé le centre de guerre. Leur lycée est touché régulièrement par des violences. Élodie Forêt, notre envoyée spéciale à Mayotte, a rencontré ces lycéennes. Elle lui raconte leur quotidien.
Entouré de barbelés, le lycée de Kahani se dresse au fond de la place où s'amassent normalement les bus scolaires. Aujourd'hui, ce sont les vacances, mais Ali, élève de première, est venu avec plusieurs de ses camarades témoigner de la violence quotidienne qu'elles subissent.
On a peur dans ce lycée. On nous caillasse. Il y a tout le temps de bastons.
Il y a partout des couteaux. On va aux toilettes, on se demande si on va pas nous poignarder là-bas.
Je mets tout le temps de baskets. On sait jamais si c'est le baston.
Des agressions, des bastons provoqués, disent-elles, par des bandes de garçons, souvent de jeunes migrants désœuvrés, ce que confirme le docteur Thierry Lahal, médecin au dispensaire voisin et légiste à l'hôpital.
Moi, je me souviens de la période où il y a eu l'histoire du petit Yuri en métropole qui s'était retrouvé en réanimation. Moi, dans le même temps, je faisais des autopsies de jeunes de 15-16 ans. J'ai les photos qui avaient été massacrées au Chombo. Et ça... Silence radio, personne n'en parle.
Une situation qui s'est dégradée depuis une dizaine d'années, soupire le médecin, et un sentiment d'abandon grandissant.
C'est de la colère, il y a de la colère en faux de moi, il y a de la peur aussi. Moi je ne veux pas vivre avec cette peur, avec cette colère. Je veux vivre, je veux être libre.
Libre d'aller à l'école, de prendre un bus sans crainte, d'Italie. Joignant alors ses mains, nous appelons à l'aide.
Élodie Forêt à Mayotte, l'épidémie de coronavirus qui progresse vitesse grand V. Le Royaume-Uni enregistre un nouveau record des contaminations, un chiffre raz-de-marée, indique le Premier ministre Boris Johnson, 93 000 nouveaux cas en 24 heures. Le Danemark, de son côté, annonce aujourd'hui la fermeture des cinémas, des théâtres et des salles de concert. Et l'Allemagne, selon son ministre de la Santé, doit se préparer à une nouvelle vague massive du variant Omicron. En France, face à la 5e vague fulgurante et ce variant Omicron en embuscade, le gouvernement réunit en ce moment un nouveau conseil de défense sanitaire. Ce conseil ne devrait pas déboucher sur des mesures exceptionnelles comme un reconfinement. Parmi les pistes envisagées, des autotests plus faciles d'accès et dans la pharmacie depuis déjà plusieurs jours, c'est déjà le rush des tests antigéniques. Reportage à Paris, Audrey Abraham, France Bleu Paris.
Dans la petite tente installée sur le bord du trottoir, les clients défilent les uns après les autres, tous pour le même motif.
Bah, Noël en famille, forcément, autant prévenir que guérir, hein, j'ai envie de dire.
Noël en famille pour Axel, même chose pour Geoffrey quelques secondes plus tard.
Moi, je retrouve mes parents, je pars en vacances demain avec eux, qui ont une soixantaine d'années, donc on en profite pour être en sécurité.
Kira, elle, compte bien se faire tester avant chaque repas de famille dans les prochaines semaines.
Comme il y a plusieurs réunions, on voit plusieurs côtés de la famille, ouais, il faut absolument le faire. Ouais.
En combinaison de protection, gants et visière en plastique, c'est Philippine qui réalise les tests. Depuis quelques jours, ces journées sont longues.
C'est vrai que ça a fait un peu travail à la chaîne. On n'arrête pas. C'est parfois fatigant et surtout le dimanche où là, c'est vraiment des grosses journées. On fait 220 tests dans la journée.
Et dans toutes les pharmacies, on s'attend à un pic d'affluence le jour J ou la veille de Noël. Éric Mion est secrétaire général de l'Union nationale des pharmaciens de France.
Les équipes sont fatiguées. Elles aimeraient bien, elles aussi, un jour avoir droit à des congés. Mais pour l'instant, on est au front. Donc avec tout ça, il faut quand même aussi continuer à bien vacciner l'ensemble de la population française et continuer aux activités pharmaceutiques qui sont la base et l'essence de notre métier.
Et si vous souhaitez vous faire tester, les pharmaciens conseillent d'anticiper. Toutes les officines ne seront pas ouvertes le 24 décembre.
Audrey Abraham, France Bleu Paris.
Sur les licences de pêche post-Brexit, Frédéric, le compte n'y est pas.
Oui, la France attend toujours que les autorités britanniques accordent 73 licences aux bateaux de pêche français, les licences les plus importantes. Paris va donc demander à la Commission européenne d'engager un contentieux contre le Royaume-Uni, comme l'a annoncé Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, à l'issue d'une rencontre à l'Élysée entre pêcheurs français, élus de la région et Emmanuel Macron.
Nous demanderons à la Commission européenne, dans les tout prochains jours, de réunir ce qu'on appelle le Conseil de partenariat, qui est prévu par l'accord de Brexit quand il y a un problème. C'est une instance politique qu'on n'a jamais réunie pour l'instant, qu'on va demander de réunir le plus rapidement possible pour dire aux Britanniques que c'est un problème européen, qu'ils ne respectent pas à 100% l'accord et qu'on doit donc avoir cette pression politique qui se poursuit. Et deuxième chose, nous demanderons aussi dans les prochains jours à la Commission européenne d'engager un contentieux, une procédure juridique pour des licences auxquelles nous avons droit, qui sont les plus prioritaires, les plus importantes. C'était une menace que nous avions évoquée et que nous demanderons à la Commission européenne de déployer au plus vite. On continue le dialogue sur certaines licences, parce qu'on peut en obtenir sans doute encore par le dialogue. Notre main a toujours été tendue vers les Britanniques pour simplement appliquer les accords du Brexit, mais avec fermeté, pression et action européenne. Et pour certains cas, il faut aller à un contentieux juridique. Ça mettra sans doute plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, les pêcheurs le savent, mais le simple fait de déclencher cela, ce sera un signal d'engagement européen en complément du dialogue et de la fermeté politique que nous appliquons.
Clément Beaune avec Mathilde Dehimy. On termine avec le choix culturel pour les vacances qui débutent ce week-end avec une nouvelle version de la flûte enchantée de Mozart présentée au Capitole de Toulouse à partir de dimanche. Un spectacle de Noël tout public du metteur en scène et chorégraphe Pierre Rigal qui a choisi de s'affranchir de plusieurs codes de l'opéra, Stéphane Capron.
Afin de rendre l'action plus compréhensible, notamment pour les enfants, et éviter de lire en permanence les sous-titres, tous les récitatifs de cet opéra sont en français et interprétés par deux comédiens, les solistes, dont la soprano Marie Perbost, ont dû s'adapter à cette mise en scène.
Ça a été un travail qui a été pas facile au début pour nous, de ne pas pouvoir incarner les personnages. Ça, c'était dur, parce que en tant que chanteuse-actrice, j'ai un plaisir infini à avoir des textes parlés. C'était très déstabilisant au début. Finalement, on a commencé à accepter que les acteurs qui sont sur le plateau à déclamer nos textes soient une extension de nous-mêmes, offrent finalement une dimension supplémentaire au personnage.
Et au milieu des airs sublimes de Mozart, le metteur en scène, Pierre Rigal, a ajouté une multitude d'ambiance sonore.
Je pense qu'avec ces ambiances sonores, ces sons additionnels, on fait un lien entre d'un chant à l'autre. On reste dans une ambiance, dans une atmosphère. On est là aussi emmené dans un univers entre deux airs très connus qui nous donnent un peu l'ambiance dans laquelle le spectateur peut naviguer.
La mise en scène de Pierre Rigal fait penser à une BD manga avec sur scène des coursiers à vélo, une station-service, Papageno qui fait du deltaplane. C'est une flûte revisitée pour un public familial.
La flûte enchantée au Capitole de Toulouse dans la mise en scène de Pierre Rigal à partir de dimanche et jusqu'au 30 décembre. Et on vous retrouvera, Stéphane Capron, demain à 6h53 dans les coulisses de l'une des dernières répétitions qui s'appelle La Costumière, les coulisses dans le 6-9 du samedi. Un mot de sport, Claire, pour vous donner des nouvelles et le score de la demi-finale de handball féminin en ce moment en Espagne entre la France et le Danemark. Eh bien, les Françaises souffrent face aux Danoises. Elles sont menées à la pause 12 à 10.
C'est pas perdu.
Non, c'est pas perdu.
Non, faut garder.
garder espoir.
Deux points.
Merci beaucoup pour ce journal, Frédéric Barré. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
C'est un temps plutôt calme et ensoleillé qui nous attend demain.
Oui, les grisailles tendent à devenir moins persistantes. Hein. Le début de journée sera quand même dominé par les nuages bas et les brouillards sur de nombreuses régions de la moitié nord. Et également dans les plaines du sud-ouest, sur le reste du pays, le soleil s'imposera dès les premières lueurs du jour. Et puis au fil de la matinée, cette couche nuageuse va se désagréger pour laisser place à des éclaircies de plus en plus larges et même à un ciel dégagé l'après-midi. Alors malgré cette amélioration, on gardera des poches de grisailles tenaces par endroits. Ce sera le cas entre le nord Auvergne et le Lyonnais, sur les Hauts-de-France et le Grand Est, hormis vers la Champagne où des éclaircies se développeront.
Température en baisse le matin, stationnaire l'après-midi.
Oui, le ciel s'est éclairci cet après-midi et cela va favoriser le rayonnement nocturne. Les températures minimales seront donc globalement en baisse et les petites gelées seront même un peu plus fréquentes. Prévoyez par exemple moins 1 degré à Agen, Mulhouse et à Bourges et 1 degré seulement à Marseille, Lyon et Biarritz. Demain après-midi, les maximales resteront comprises entre 7 et 14 degrés avec 2 à 9 degrés sur un large quart nord-est, jusqu'à 15 à 18 degrés sur le piémont pyrénéen et entre la côte d'Azur et la Corse. Prévoyez par exemple 4 degrés à Clermont-Ferrand, 9 degrés à Paris et à Reims, 13 degrés pour Bordeaux et Montpellier et 15 degrés à Nice et Ajaccio.
Nous voilà prévenus. Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.